plaisir de vous revoir tous. J'aimerais lire quelques passages ce soir à propos du Seigneur Jésus. On va lire d'abord dans l'Évangile de Matthieu. Au chapitre 7. Au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va lire dans Luc chapitre 6. Au verset 46. Seigneur Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » On va lire dans Jean, l'évangile de Jean, un peu plus loin, au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Et au verset 13 aussi. Au verset 12 déjà. Après que Jésus leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On va lire un peu plus loin dans Romains chapitre 10. Vous remarquez toujours le mot Seigneur. Vous l'avez dû le remarquer déjà. Toujours le mot Seigneur. Romains 10. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Encore dans 1 Corinthiens, chapitre 12, c'est beaucoup de versets, mais c'est toujours avec le mot Seigneur, alors ça se tient ensemble, hein? 1 Corinthiens 12, au verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Encore dans Colossiens, un petit peu plus loin, toujours en suivant, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu, été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Un dernier passage dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur, ou Jésus-Christ comme Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Un jour trop tard, tous les humains devront déclarer que le Seigneur Jésus est vraiment le Seigneur, mais ce sera trop tard pour être sauvé. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a un autre passage qui dit que en parlant de l'humiliation du Seigneur Jésus, son abaissement et de son élévation, qui dit que toute langue confessera un jour que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un jour, tous les humains qui ont passé sur cette terre devront reconnaître que véritablement Jésus est le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui vraiment sont prêts de reconnaître que Jésus est Seigneur. Les athées, les musulmans aussi, j'espère que ça blesse personne, mais c'est un fait, ils reconnaissent pas que Jésus est vraiment le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu et qu'il mérite notre soumission, qu'il mérite qu'on lui obéisse. Pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui voudraient jamais avouer qu'il est le Seigneur. Mais il y en a aussi qui l'appellent Seigneur. Comme on l'a lu dans l'Évangile de Matthieu, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et dans Luc aussi, il a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il a montré que il y avait une contradiction entre leurs paroles et leurs actions. Alors, il y a beaucoup dans le Nouveau Testament, beaucoup d'instructions sur ce que ça veut dire « Jésus est le Seigneur ». Et ça touche déjà la manière dont on prêche l'Évangile. La manière dont on prêche l'Évangile. Dans bien des milieux, sans donner de nom, sans critiquer les personnes mêmes, on annonce l'Évangile simplement en disant « Accepte Jésus dans ton cœur, t'as tout à gagner, rien à perdre. » Ou on dit toutes sortes de choses, tu sais, « Accepte Jésus, ça va être la fin de tes problèmes, tu vas quasiment avoir tout ce que tu veux. » Mais on prêche pas vraiment un sujet très important, c'est la culpabilité. Le fait que nous avons offensé Dieu. Et le fait que nous sommes coupables devant Dieu. Et aussi le fait que le Seigneur Jésus est Seigneur et qu'on lui doit respect et qu'on doit se soumettre à son autorité. Que lui, le Seigneur, a été offensé. Ça, c'est un aspect très important. la ruine de l'homme, d'une part, l'homme dans le sens général, l'homme et la femme, la ruine totale, le fait qu'on est pécheur, qu'on est foncièrement gâté par le péché, et qu'on a offensé Dieu, et que c'est quelque chose de grave d'avoir offensé Dieu. Alors au début, quand on entend vraiment expliquer la vérité de la parole de Dieu, c'est pas tellement agréable. C'est pour cela que, dans bien des endroits, tout en ayant un beau désir d'annoncer l'Évangile, on passe sous silence ces aspects importants de la vérité. Et ainsi, on fait des convertis superficiels qui veulent bien être du bon côté, du côté du Seigneur Jésus, mais qui, franchement, n'ont pas une œuvre profonde dans le cœur, parce qu'on n'a pas prêché, justement, cet aspect important de la vérité, la gravité du péché, la ruine totale de l'homme. L'homme n'a pas réussi vraiment à plaire à Dieu, qui a offensé un Dieu saint, un Dieu juste. Et de ce fait même, c'est grave parce qu'on présente pas clairement et proprement le caractère de Dieu. Est-ce que qui est Dieu vraiment? Alors, déjà au départ, on sait que, dans un sens, ça prend pas grand-chose pour être sauvé. Un mourant qui regarde au Christ, mourant à notre place, crucifié à ma place, peut être sauvé. Un regard de foi sauve un pécheur repentant. Mais d'autre part, on voit aussi dans la parole que c'est pas simplement d'accepter Jésus, mais c'est véritablement d'accepter le Seigneur Jésus, ou Jésus comme Seigneur. La question a été posée, est-ce que c'est possible d'accepter Jésus, et plus tard, si l'on veut bien, l'accepter comme Seigneur? Bien, je ne pense pas, parce que le Seigneur Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. On peut pas disséquer sa personne. On peut pas diviser sa personne. Il est le Seigneur Jésus. C'est un fait qu'il y a des gens qui ont entendu l'Évangile très simplement. Il y a des enfants de chrétiens ou d'autres, qui entendent l'Évangile et qui sont sauvés jeunes, sans savoir grand-chose, sans comprendre beaucoup de la parole de Dieu. Du reste, on comprend jamais tout. Moi, je prétends pas tout comprendre, ni pouvoir tout expliquer. Néanmoins, il y a des degrés. Il y en a qui ont accepté très simplement l'Évangile en comprenant que Jésus a été crucifié pour eux à la croix. Et qui plus tard, qui ont été véritablement sauvés, et qui un peu plus tard, ont compris, en avançant peu de temps après, que Jésus est véritablement le Seigneur. C'est-à-dire, ils lui doivent obéissance. Ils doivent se soumettre à son autorité. Mais si quelqu'un, au départ, prétend accepter Jésus dans son cœur, comme on entend dire souvent, mais qu'il n'est pas intéressé pour tout de suite de l'accepter comme Seigneur, je crois qu'on peut douter de la sincérité d'une telle personne. Parce que, vraiment, quand on lit la parole attentivement, on remarque que, d'emblée, le Seigneur Jésus est présenté pour ce qu'il est, véritablement, le Seigneur. Celui à qui toute autre autorité doit être soumise. Celui à qui nous devons obéir. On a lu, le Seigneur a dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites, bien je le suis. Donc il a approuvé cette appellation, maître et Seigneur. Il était d'accord qu'on l'appelle comme ça. Maître, c'est un terme par lequel on reconnaît le savoir de quelqu'un. Seigneur, c'est une expression qui souligne l'autorité de quelqu'un. maître. On appelle comme ça les avocats aujourd'hui, un maître. Parce qu'ils savent beaucoup de choses. Ils sont supposés savoir beaucoup de choses, du moins. Ils connaissent la loi. Alors, on reconnaît leur savoir par ce terme honorifique. Et le Seigneur Jésus était appelé maître, enseignant aussi, et Seigneur. Donc, il a approuvé le fait qu'on l'appelait Seigneur. On a lu dans Romains 10, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou Jésus comme Seigneur. Donc on voit, même dans l'évangile, l'évangélisation, on doit présenter une personne. C'est ça là, l'important, on présente une personne, celui qui est le Seigneur, celui à qui nous devons toute obéissance. Celui qui mérite d'être obéi. Il mérite notre allégeance, le Seigneur Jésus. Dans l'acte au chapitre 16, vous connaissez l'histoire du geôlier, ça veut dire, en termes d'aujourd'hui, un gardien de prison, qui, au milieu de la nuit, la prison est ébranlée, les prisonniers, leurs liens tombent, et il a peur, sachant que il méritait la mort, il était pour être mis à mort, puis il laissait échapper les prisonniers. Alors, pris de panique, il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois en Jésus et tu seras sauvé. C'est ça? Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, ils lui ont bien précisé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quand l'apôtre Paul parle écrit aux Colossiens, on n'a pas lu le texte, mais au chapitre 2, il dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, il dit bien, vous avez reçu qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui. Quant au mort, réveillé de son incrédulité momentanée, s'est trouvé devant le Seigneur, après qu'il avait douté, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Lui aussi a reconnu le Seigneur Jésus comme son maître, son Dieu. On vit dans une société où, de plus en plus, l'autorité est rejetée. On vit dans un monde où on rejette l'autorité. Tout le monde veut faire comme il veut. On ne reconnaît plus d'autorité. À Paris, en mai 68, je ne suis pas français, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je sais ça, qu'en mai 68, quand il y a eu la révolte des étudiants dans les universités à Paris, les étudiants avaient écrit contre les murs partout, défendu de défendre. Une révolte qui n'est plus permis de défendre rien. C'est une défense, mais défendu de défendre. On ne veut plus rien qui mette des limites. On ne veut plus se soumettre à rien. On veut être libre. Ça, c'est déjà l'esprit de l'Antichrist qui est déjà visible, sensible aujourd'hui dans le monde où on vit. Parce que l'Antichrist, c'est l'homme sans foi ni loi, et on s'en va rapidement vers ce jour-là. J'ai lu l'histoire d'une jeune fille, jeune femme, qui était dans le bus. Elle avait un enfant sur ses genoux, et ce petit garçon, il avait les pieds sales, puis il était assis en face d'une dame âgée, puis le petit garçon, il touchait la robe de la dame avec ses pieds sales, puis salissait la dame qui était juste en face. Puis la dame âgée, il s'est permis de faire une petite remarque, et votre enfant me tend son pied pour me s'essuyer ses pieds sales contre ma robe. La jeune femme a répondu, mon enfant est élevé sans autorité. Il y avait un jeune garçon pas loin de là, qui a entendu cette conversation, il a craché dans la face de la fille, il dit, moi aussi je suis élevé sans autorité. Voilà le monde dans lequel on vit. Un monde où on se moque de toute autorité, où on n'a plus de respect de personne. On sait que, il n'y a pas de chrétiens qui feraient ça, au moins qu'ils sont pas mal éloignés du Seigneur. Néanmoins, c'est un fait que on est influencé par le monde dans lequel on vit. On est influencé. Qu'on le veuille ou non, le monde déteint sur les chrétiens. Un peu comme quand on lave du linge blanc avec du linge de couleur, il y a le risque que la couleur déteigne sur le blanc. Et on peut dire que il y a bien des choses, même dans notre société, qui sont pas correctes, mais on est tellement habitué que, sans s'en apercevoir, on est porté à penser que c'est pas si pire. Puis certains chrétiens même se sont tellement habitués qu'ils font comme le monde. Et dans ce domaine de l'autorité, du respect du Seigneur Jésus, bien, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. On a besoin de se rappeler que quand on est sauvé, bien, on est soumis à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, le texte qu'on a lu, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. » Ou comme c'est mis dans la note dans certaines versions, « Jésus-Christ comme Seigneur, que nous prêchons. » J'ai déjà dit souvent, mais c'est très important de le souligner encore, quand le monde nous demande, et vous autres, qui c'est qui dit que vous avez raison? Les témoins de Jéhovah sont venus à la porte, les mormons sont venus l'autre jour, un tout l'autre groupe là qui se dit correct, eux autres aussi, qui c'est qui a raison? Ils ont tous l'air d'avoir raison, ils arrivent tous avec la Bible sous le bras, on ne sait pas qui c'est qui a raison. Mais ceux qui ont raison, c'est ceux qui reconnaissent véritablement l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vraiment se soumettent à sa parole, en réalité. C'est ça, c'est ceux-là qui ont raison. Pas parce que nous, on veut avoir raison, mais on veut prêcher le Seigneur Jésus. C'est ce qui doit frapper dans une assemblée chrétienne, c'est l'autorité et la place qui est donné, qui est accordé au Seigneur Jésus lui-même. On n'adore pas un livre, un morceau de papier, recouvert de carton ou de cuir, mais on adore celui qui nous est révélé dans le livre. On veut être soumis à son autorité, parce qu'on sait qu'un jour on devra le rencontrer, et c'est à lui que nous aurons à rendre compte de notre vie. Au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je pense même que M. Spreeman l'avait fait mettre sur le papier à lettre de Vie et Liberté. On parlait de ça. Un des côtés de la page, il me semble, je pense à ça, le bureau, la case postale où il y a où on a l'adresse pour les traités. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. On se vante pas nous-mêmes, c'est pas nous qu'on veut se mettre en avant. C'est le Seigneur Jésus, vraiment. Donc, c'est ce qui nous marque dans notre vie personnelle. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On l'a reçu quand on a été sauvé. Maintenant, on reconnaît son autorité. Être sauvé, c'est une expérience d'un jour, d'une fois. On ne peut pas être sauvé plusieurs fois. On l'est ou on ne l'est pas, une fois. Néanmoins, reconnaître l'autorité du Seigneur Jésus, c'est à renouveler tous les jours. C'est à renouveler tous les jours. Tous les jours de ma vie, et même à chaque instant de ma vie, je dois reconnaître l'autorité du Seigneur Jésus. Ça veut dire que je n'ai pas le droit, comme chrétien, de faire ce qui est à mon idée, à mon goût. Je dois me soumettre à son autorité. Dans l'Épître aux Éphésiens, je vois le verset, parce que je vais être sûr de citer comme il faut. L'apôtre Paul dit ici, examinez, 1 Corinthiens, Éphésiens 5 au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et si vous lisez votre Nouveau Testament, et soulignez dans votre Bible, ou prenez note sur un papier, toutes les fois qu'il y a le mot Seigneur, et les implications dans notre vie pratique, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très importantes. On est libre, mais dans le Seigneur. Ça veut dire en reconnaissant son autorité sur notre vie. Il y a une différence entre les expressions « en Christ » et « dans le Seigneur ». « En Christ » ou « dans le Christ », « en Jésus-Christ », c'est notre position. C'est nos bénédictions « en Jésus-Christ ». Nous sommes en Jésus-Christ bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Christ, dans le Christ. Hein? Si quelqu'un est en Christ, dans le Christ, il est une nouvelle création. C'est la position. Tandis que dans le Seigneur, c'est nos obligations. Nos obligations. C'est-à-dire nos devoirs. Notre position céleste en Jésus-Christ, dans le Christ, nos obligations terrestres. Terre à terre. Et quand on lit aussi l'Épître aux Éphésiens, qui est l'Épître qui nous conduit au plus haut sommet de la révélation divine, le Nouveau Testament, on voit que même si cet Épître nous présente le plus haut qu'on pourrait être, ça veut dire assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme si on était déjà rendu, elle nous donne aussi des exhortations pour notre conduite personnelle dans la famille, dans le monde des affaires, dans toutes les sphères de l'activité humaine, et toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce que ça veut dire que dans tous les domaines de notre vie, on doit reconnaître l'autorité du Seigneur Jésus sur notre vie. On n'est pas libre. Quelqu'un, un jeune homme, fait des années déjà, qui avait été sauvé depuis peu, il dit un jour, il dit, je me suis aperçu que on peut jamais être libre. Quand on est perdu avant d'être sauvé, ben, on obéit à Satan sans le savoir, on est des esclaves du malin, puis d'un coup qu'on est sauvé, on peut pas vraiment être libre, faut se soumettre au Seigneur Jésus. J'ai dit, t'as raison, il l'avait découvert, voyez-vous, de lui-même, et c'est un fait. Quand on est encore dans le monde, on pense qu'on fait ce qu'on veut. Il y en a qui veulent s'affranchir de tout lien qui les brime. Ils veulent satisfaire tous leurs caprices. Puis ils pensent qu'ils font ce qu'ils veulent, mais dans le fond, ils sont des esclaves d'un maître dur et cruel qui les emmène éternellement loin de Dieu. Mais quand on est chrétien, on doit volontairement se soumettre à l'autorité du Seigneur Jésus. Il est celui qui a payé pour nous. Il a un droit sur nous. Parce qu'il a payé cher pour notre salut. On voit ça aussi dans la manière de s'adresser au Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué que dans les évangiles, il y a seulement les démons, les possédés, qui appelait Jésus par son nom d'homme, Jésus. Seulement eux. Puis encore, ils ajoutaient un autre mot, Jésus de Nazareth, Jésus fils de David, mais il y a seulement les démons, les possédés, les mauvais esprits. Personne des disciples l'appelait Jésus. Toujours Seigneur, Maître, Rabbi ou Rabouni. Rabbi, ça veut dire maître, puis Rabouni, mon maître. Donc, avec un terme de respect. Jamais Jésus. Maintenant, dans certains cantiques, à cause des exigences de la poésie, à cause de peut-être le manque de connaissances de certains qui sont doués pour écrire des poésies, donc pour mettre en musique des cantiques, on s'adresse au Seigneur simplement Jésus. Et je pense que, en général, on accepte de chanter ces cantiques. Mais dans les prières, en privé comme en public, on s'adresse à lui comme le Seigneur Jésus. Mais, dire Seigneur Jésus, c'est pas seulement reconnaître un fait, c'est reconnaître aussi ses droits sur nous. Parce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 7 que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Puis j'ai bien dit au début, c'est pas les musulmans qui reconnaissent pas que Jésus est le Seigneur. Ils croient qu'il est un grand prophète. C'est pas non plus les athées. Ils disent pas. Les athées, ils ont un vocabulaire, ils vont dire la Bible, ils vont pas dire la parole de Dieu. Jamais un athée qui dit la parole de Dieu. Jamais un athée qui dit Jésus est le Seigneur. Jésus, simplement. Il y en a, c'est des gens qui professent le christianisme, qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui véritablement, il n'est pas le Seigneur de leur vie, seulement le Seigneur de leurs lèvres. Ils le disent des lèvres, mais pas du cœur, pas réel. Donc, ceux-là, ils l'appellent Seigneur, mais on a vu dans 1 Corinthiens 12 que nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Apparemment, il y a une certaine, on pourrait penser qu'il y a une contradiction, mais c'est pas une contradiction, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut dire Seigneur des lèvres sans que ce soit réel, mais on peut pas vraiment dire Seigneur en réalité et que ce soit un fait dans notre vie si ce n'est avec l'assistance du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu nous demande de faire est tellement difficile que c'est impossible de le faire par nous-mêmes. On peut pas le faire par nous-mêmes. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous aide. C'est pour ça qu'on a dit, ce que Dieu ordonne, il le donne. Ce que Dieu ordonne de faire, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus soit vraiment le Seigneur, il nous donne aussi la possibilité, parce qu'il nous donne son Esprit. Alors on peut demander à Dieu que par son Esprit, que vraiment on reconnaisse dans notre vie que le Seigneur Jésus est le Seigneur. Ça veut dire le maître de notre vie. Et ça touche un peu tous les domaines de notre vie. Je réalise que je peux pas faire ce que je veux, mais je dois faire ce que Seigneur Jésus me montre que je dois faire selon sa parole. Ça demande donc une étude de la parole de Dieu, réfléchie dans la prière, dans la méditation, avec un désir de lui obéir. Par exemple, comme chrétien, je peux pas détruire mon corps, que ce soit par la fumée, que ce soit par les abus de quoi que ce soit, de drogue ou d'aliments qui me font du tort. Je prends soin de mon corps, je prends soin aussi de mon âme, et je veux que ma vie soit en ordre, je veux que ma vie soit à la gloire de Dieu, pour manifester que véritablement je connais le Seigneur Jésus. Alors j'espère que ces quelques réflexions vous auront porté à la réflexion aussi vous-même en lisant la parole, parce que beaucoup de choses, c'est bon d'être fidèle aux réunions, d'assister fidèlement aux réunions, d'écouter la prédication, la parole de Dieu, mais c'est encore aussi important d'étudier par soi-même les Écritures. Ce qu'on apprend soi-même dans la parole, en la lisant, avec peut-être un cahier de notes, ou une Bible où on peut souligner, ou d'une manière ou d'une autre, qu'on apprend soi-même dans la parole de Dieu, c'est certainement aussi très important. Très, très important. Alors, en lisant le Nouveau Testament, vous allez vous rappeler de cela. En Christ, dans le Christ, en Jésus-Christ, ça c'est notre position. C'est la sphère de nos bénédictions. Mais toutes les fois qu'on a dans le Seigneur, bien, c'est l'aspect de nos responsabilités. Et la parole de Dieu, elle donne un équilibre entre les deux. Elle nous montre nos bénédictions, tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne dans sa grâce, immérité de notre part. Mais de notre côté, il nous montre aussi qu'il y a une dignité d'être chrétien. On ne peut pas dire « je suis chrétien » puis « vivre comme un païen ». Ce n'est pas du tout « j'ai un Seigneur que je dois honorer dans ma vie ». Alors, que Dieu nous aide à mettre en pratique ces choses, plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Si on est sauvé une fois, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, quand j'ai changé mon fil de pensée, c'est que on est sauvé une fois, peut-être en un moment, mais pour véritablement reconnaître la seigneurie et l'autorité du Seigneur Jésus dans notre vie, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est une affaire de toute une vie, ça, pour vraiment le reconnaître comme le Seigneur et le Maître de notre vie. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour notre petite réunion ce soir autour de la personne même du Seigneur Jésus, présent, là où deux ou trois sont réunis en son nom. Nous te rendons grâce de ta bonté, notre Dieu. Tu es un Dieu bon et compatissant. Tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui veut le bonheur de sa créature, qui a pourvu un salut gratuit, entièrement payé à la croix, mais tu es aussi un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu qui attend de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, qu'ils se soumettent aussi à son autorité, avec le désir de lui plaire, de vivre pour lui, de se séparer du mal, de vivre en communion avec lui, pendant les jours que tu nous donnes sur cette terre. Et nous voulons te demander que nous puissions l'apprendre toujours mieux et davantage. Nous te rendons grâce encore une fois, te demandant ta bénédiction sur le restant de la semaine, bénir les absents, bénir aussi nos familles, visiter ceux qui nous sont chers et que nous aimerions voir aussi venir à toi, pour la gloire de ton nom. Amen.